colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Jeanne d'Arc a été prisonnière, alors elle n'a pas été considérée comme prisonnière de guerre au sens où on l'entend au Moyen-Âge, mais malgré tout, c'est peut-être pas dans les conditions qu'on a vues ce matin au moment de la guerre d'Espagne au temps de Napoléon, mais enfin c'est des conditions assez dures qui lui ont été faites. Problème du viol également, puisque Jeanne d'Arc a peut-être été violée dans sa prison, ou en tout cas elle a craint de l'être. Nous n'avons pas de certitude à ce sujet, mais enfin la question visiblement s'est quand même posée. Elle a été examinée également, là aussi ça renvoie à des choses qui ont été vues ce matin. Elle a été examinée à deux reprises, d'abord dans son camp, puis dans le camp adverse, non pas pour vérifier qu'elle était une femme, la question ne se posait pas, quoique, mais en même plutôt pour savoir si elle était vierge en fait. Donc c'est des choses qui sont bien connues. Et puis se pose également à propos de Jeanne d'Arc la question de la sexualité d'une femme en temps de guerre, et avec les témoignages du procès qu'on appelle traditionnellement de réhabilitation, mais qui sont en fait plutôt procès d'annulation de la condamnation de 1431. Donc ce procès qui se tient en 1456, il est question du fait que Jeanne d'Arc, bien que le duc d'Alençon dise qu'il l'avait vue les seins nus dans la vie de Caen, qui était une vie faite évidemment de promiscuité, eh bien Jeanne d'Arc n'attirait pas les hommes en fait. Elle ne suscitait pas plus exactement de désir d'ordre sexuel chez les hommes. Et donc c'était considéré évidemment à l'appui de sa piété. Évidemment ce sont des sources qui sont biaisées, mais enfin qui méritaient d'être rappelées. Alors évidemment les sources que nous avons à propos de Jeanne d'Arc, elles sont assez spécifiques, puisque à côté des sources strictement contemporaines, des chroniques, des lettres sur lesquelles je vais essayer de revenir, il y a bien sûr deux sources fondamentales qui font la spécificité de Jeanne d'Arc et qui font que Jeanne d'Arc est probablement, de toutes les femmes du Moyen-Âge, celle que nous connaissons le mieux. La première source, bien sûr, ce premier procès, c'est le procès de condamnation qui se tient de janvier à mai 1431 à Rouen, qui est un procès ecclésiastique avec deux juges, l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, et puis le vicaire de l'inquisiteur de France. Donc un procès vraiment ecclésiastique. Et on va voir que ça a des conséquences quand même sur l'appréhension que nous pouvons avoir de Jeanne et dans la guerre, et Jeanne comme chef de guerre, donc 1431, qui aboutit évidemment à sa condamnation. Et puis l'autre source fondamentale, c'est le procès dit donc de réhabilitation, plutôt d'annulation de la condamnation, qui se tient 25 ans plus tard, en 1456, à Rouen, à Domrémy, à Paris, puisque des enquêtes sont diligentées dans ces différents endroits, et qui aboutit à l'annulation de la condamnation de 1431 et au fait que Jeanne d'Arc est considérée comme lavée finalement des fautes qui lui avaient été imputées 25 ans plus tôt. Et ce qui est intéressant de voir à l'occasion de ce procès en annulation de la condamnation, c'est bien sûr que Jeanne d'Arc est très bien connue par les témoignages qui sont rendus au cours de cette enquête aboutissant à l'annulation de sa condamnation, avec beaucoup de témoins qui interviennent, donc à Domrémy, à Orléans, à Rouen, à Paris, donc des gens qui l'ont bien connue. Évidemment, leurs sources, leurs témoignages sont biaisés, mais enfin, quelle source n'est pas biaisée et donc, il suffit de prendre un petit peu de précaution. Et malgré tout, on a sur Jeanne d'Arc, en tant que femme, en tant qu'héroïne, un stock de données qui est beaucoup plus important que sur les autres femmes du Moyen-Âge. Alors, il faut peut-être planter un petit peu le décor. On est quand Jeanne d'Arc commence sa carrière, sa vie publique en 1429. Donc, on est plutôt dans l'avant-dernière partie de la guerre de Cent Ans, un moment où, situation très spécifique malgré tout, puisque la guerre de Cent Ans naît bien sûr de la revendication que fait le roi d'Angleterre, Édouard III, en 1337, de la couronne de France, estimant ses droits supérieurs à ceux de son cousin Philippe VI de Valois. Donc c'est une question vraiment de légitimité, et c'est ça qui fait l'unité de la guerre de Cent Ans. Parfois on conteste, mais enfin, il y a quand même une unité. Il y a le fait que, évidemment, c'est quand même très spécifique, c'est le fait que les rois d'Angleterre revendiquent la couronne de France, et non sans droit, si on veut, mais enfin, les Valois, évidemment, n'étaient pas tout à fait d'accord. Plus précisément, on est dans la décennie 1420 qui s'ouvre par qu'on appelait le honteux traité de Troyes, qui est conclu par la reine Isabeau de Bavière, au nom de Charles VI, qui est fou, avec le concours du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, contre le dauphin Charles, et qui évince le dauphin Charles, donc celui que nous connaissons sous le nom de Charles VII, de ses droits à la couronne de France, au profit de Henri V, le roi d'Angleterre, qui en 1415 a remporté à la bataille d'Azincourt une victoire triomphale sur l'armée française. Et donc là, on est vraiment dans une question de légitimité, et c'est quelque chose qu'il faut garder présent à l'esprit pour bien comprendre la mission dont Jeanne d'Arc s'est sentie investie. Après le traité de Troyes, le dauphin Charles ne s'est pas reconnu comme battu ou comme évincé. Il n'a pas reconnu, évidemment, la légitimité du traité de Troyes. Et en 1422, meurt à quelques semaines ou quelques mois de distance, Henri V, qui meurt donc 31 août 1422, suivi dans la tombe par celui qui était devenu par ailleurs son beau-père, donc Charles VI, le roi de France. Et donc, du point de vue du traité de Troyes, le nouveau roi de France et d'Angleterre, c'est Henri VI, le tout jeune fils de Henri V, hein, qui a quelques mois simplement, et qui est par ailleurs le fils de Catherine de France, la fille de Charles VI. Hein. Donc il y a un roi de France et d'Angleterre, Henri VI, et évidemment, depuis ce qu'on va appeler, ce que les contemporains appellent le royaume de Bourges, hein, donc depuis le midi du royaume, depuis la région qui est au sud de la Loire, ou l'ensemble de régions qui est au sud de la Loire, Charles, le dauphin Charles, va se proclamer roi, et c'est celui que nous connaissons sous le nom de Charles VII. Mais pour les contemporains, finalement, la question n'était pas du tout tranchée. Quand on était dans l'obéissance, quand on était dans le nord de la France, on était dans l'obéissance à Henri VI, hein, le roi de France et d'Angleterre, soutenu par le traité de Troyes, soutenu par les institutions parisiennes, le Parlement, la Chambre des comptes, l'université. Et puis, quand on était dans le midi du royaume, on était plutôt pour Charles VII, parce que c'était le fils aîné ou l'aîné des fils survivants de Charles VI, et qu'au fond, c'est sa légitimité qui l'emportait. Mais finalement, et ça va être évidemment le grand acquis de Jeanne d'Arc, c'est d'avoir tranché cette question légitimité. Alors, Jeanne d'Arc elle-même, sa mission, elle est assez bien connue, finalement, aussi bien qu'on puisse la connaître, avec, évidemment, ce problème fondamental, mais à la fois incontournable et insoluble, qui est celui des voix. Mais on va y revenir, parce que la question des voix, évidemment, fait pleinement partie du mystère de Jeanne d'Arc. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, à Don Rémy, donc plutôt quand même aux limites, aux frontières du royaume, Jeanne d'Arc, dans des circonstances qui sont mal connues, réussit à convaincre le capitaine de la place voisine, la place de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, de l'envoyer à Chinon, là où réside alors Charles VII. Alors déjà, cette première étape est fondamentale, puisqu'elle met en jeu le charisme de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire que cette jeune paysanne, hein, qui doit avoir 17 ou 18 ans au maximum à cette époque-là, en 1429, réussit quand même à convaincre un capitaine aguerri de l'envoyer avec quelques hommes, traverser une zone qui est ennemie, hein, qui est tenue par les Anglais ou par les Bourguignons, jusqu'à Chinon. Et donc ça déjà, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. On peut bien dire que le roi de France recevait beaucoup de gens comme ça, mais là, c'est quand même relativement exceptionnel qu'on fasse faire plusieurs centaines de kilomètres à une jeune paysanne. C'est quand même assez fondamental. À Chinon, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait l'enthousiasme, hein, puisque Charles VII, s'en doute-t-il, est assez convaincu. Il y a là aussi des épisodes assez mystérieux, un secret qu'aurait révélé Jeanne d'Arc à Charles VII. Mais enfin, Charles VII est un homme prudent, et donc il s'entoure de précautions. D'abord, il fait vérifier sa virginité, ce qui était quand même un gage de bonne moralité, en quelque sorte. Et puis surtout, il lui fait subir un examen par des théologiens. Et l'examen de Poitiers, si nous en avions le compte-rendu, c'est-à-dire les questions et les réponses qui ont été posées par les juges, qui étaient des théologiens, et par les réponses qui ont été faites par Jeanne, on verrait probablement que c'est à peu près les mêmes questions, sans doute à peu près les mêmes réponses, que celles qu'elle fait en 1431 au cours de son procès à Rouen. Hein. Donc l'esprit peut-être était un peu différent, mais enfin le fond était le même, c'est-à-dire pourquoi une femme, hein, comment une femme et comment elle avait été inspirée. Malheureusement, nous n'avons pas les questions et les réponses qui ont été faites à Jeanne lors de l'examen de Poitiers, mais il faut garder présent à l'esprit que malgré côté très connu de Jeanne d'Arc, hein, qui nous paraît évident, pour les contemporains, en février-mars 1429, hein, ça n'est pas du tout, évidemment, quelque chose de contemporain. Et dans le camp de Charles VII, alors même que Jeanne d'Arc se proclame comme devant faire la guerre au nom de Charles VII, eh bien, on n'est pas du tout convaincu et on est plutôt, au contraire, plutôt prudent. Un des théologiens qui est sollicité par Charles VII, Jacques Gélu, qui est archevêque d'Embrun dans les Alpes, fait même un traité qui est plutôt, qui est daté donc de février-mars 1429, qui est plutôt hostile à Jeanne d'Arc, en fait, hein, au recours à Jeanne d'Arc, alors que c'est un des partisans les plus assidus, par ailleurs, de Charles VII. Alors, c'est vrai que pour justifier l'entrée en guerre d'une jeune fille, on avait quelques références qu'on pouvait mobiliser, à partir surtout de la Bible, Déborah ou Judith. Mais enfin, ça n'allait quand même pas très loin. Hein. Et c'est souvent ces références qu'on cite, mais malgré tout, ce n'est pas quand même quelque chose qui était évident, naturel. Et il faut prendre en compte quand même le fait que utiliser, avoir recours à une jeune fille en plus, hein, une jeune paysanne, ça aurait pu être dame de l'aristocratie. On monte un peu en épingle des exemples pour le XIVe, pour le XIIIe siècle, de femmes qui ont fait la guerre ou qui ont conduit la guerre. Enfin, ça reste toujours des exemples très ponctuels. Là, en plus, avec Jeanne d'Arc, il y a une dimension sociale. Hein. C'est le fait que c'est une jeune paysanne qui est probablement, certainement d'ailleurs, illettrée. Alors, Jeanne d'Arc elle-même n'a pas de doute, hein, et c'est ce qui fait sa force, et elle-même se considère comme chef de guerre. C'est d'ailleurs ce qu'elle publie, qu'elle proclame, dans la lettre qu'elle envoie aux Anglais, qui date du 22 mars 1429. Les Anglais, alors, assiègent Orléans, c'est bien connu. Et Jeanne d'Arc envoie une lettre qui est d'un culot monstrueux aux Anglais, et où elle dit « Je suis chef de guerre hein, ».« Je suis chef de guerre ». C'est-à-dire que, malgré tout, à un moment ou à un autre, on l'a accepté, non sans réticence. Hein, on ne possède pas, je l'ai dit, le procès verbal des questions et des réponses qui ont été posées à Jeanne d'Arc en février 1429 à Poitiers, mais on possède l'avis qui a été émis par les théologiens ou par ceux qui avaient examiné Jeanne. C'est un avis, on peut bien voir, hein, on peut essayer de voir, on peut toujours tenter. Finalement, on était tellement désespéré qu'on n'avait plus grand-chose à perdre, mais enfin, ce n'était pas quand même l'enthousiasme absolument vif pour la personne de Jeanne. Donc, sans qu'on sache exactement comment, Jeanne d'Arc a été mise en, a été transformée en quelque sorte en femme de guerre. C'est-à-dire, ça, c'est attesté par les comptes, donc c'est absolument incontestable. On lui donne une armure, on lui apprend à monter à cheval et elle se munit d'une épée. Hein, donc, il y a tout un truc autour, enfin, tout un développement à faire autour de l'épée de Jeanne d'Arc, enfin, ou des épées de Jeanne d'Arc, enfin. Je passe ici. Alors, son armure, ce n'est pas l'armure dans laquelle on la représente au XIXe siècle, et l'armure, une espèce de jupon de métal, hein, pour faire un peu féminin, c'est l'armure d'un homme qu'on a adapté. Hein, donc, ce n'est pas l'armure d'Ingres. Ingres la représente hein, comme au sacre. Là, c'est une espèce de jupon qu'elle a en métal. Là. Bon, évidemment, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On s'est étonné qu'elle puisse monter à cheval, etc. Mais, enfin, elle était visiblement assez douée pour beaucoup de choses. Et, ouais, elle savait monter à cheval, elle savait plus ou moins manier les armes, quoique on va voir que ce n'est pas si évident. Surtout, il y a quand même un pari de la part du gouvernement royal, du gouvernement de Charles VII, c'est que très rapidement, l'arrivée, l'irruption de Jeanne d'Arc va être annoncée dans tout le royaume, c'est-à-dire dans la région, dans les régions qui reconnaissaient l'autorité de Charles VII. Hein, et donc, il y a des lettres qui sont expédiées par le gouvernement de Charles VII, donc intitulées au nom de Charles VII, qui sont expédiés dans toutes les villes du royaume, jusqu'à Narbonne, hein, jusque dans le Midi. Et très rapidement, le gouvernement royal autour de Charles VII va faire le pari que Jeanne d'Arc va inverser les choses. Hein. On peut se demander ce qui se serait passé si ça n'avait pas fonctionné, si Jeanne d'Arc avait été tuée ou faite prisonnière au moment du siège d'Orléans. Enfin, c'était un petit peu un pari. Et là, cette fois, Jeanne d'Arc est vraiment mise en avant, y compris comme finalement chef de guerre. Concrètement, dans les combats qui commencent à partir de la fin du mois d'avril 1429, Jeanne d'Arc est effectivement jusqu'à un certain point chef de guerre. Hein. La question est un peu difficile à trancher. On sait qu'elle a eu des difficultés avec les véritables chefs de guerre, c'est-à-dire des hommes qui étaient de l'entourage du roi, qu'elle les a, en quelque sorte, si vous passez l'expression, bluffés par son charisme, qu'on peut appeler aussi du culot, hein, parce qu'elle parle quand même au prince du sang, au duc d'Alençon, à Dunois, hein, elle leur parle quand même de façon assez familière, mais enfin, ça emporte quand même l'adhésion. Est-ce à dire que concrètement, elle dirige elle-même les opérations ? Là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il semble qu'elle n'ait pas vraiment conduit les opérations. Il faut dire que les opérations de levée du siège d'Orléans ne sont pas très compliquées. Hein. Ça oppose quelques milliers d'hommes de chaque côté. Puis, il faut prendre les bastides anglaises les unes après les autres. Bon, c'est quand même pas, ça n'exige pas non plus un talent extraordinaire. Mais ce qui caractérise Jeanne d'Arc, c'est quand même le fait qu'elle peut susciter l'enthousiasme. Hein. Et c'est ça qui... Là, il y a peu de raisons d'en douter, c'est qu'elle est capable de rallier des hommes qui sont en train de fuir, qu'elle suscite toujours l'enthousiasme. Et pour cela, il faut être quand même du côté, enfin, il faut être au premier rang. Et c'est ce qui explique les blessures de Jeanne d'Arc. Hein, parce que Jeanne d'Arc, au cours de sa très brève carrière militaire, hein, qui dure quelques mois, est quand même blessée à 3 reprises, par des flèches, par des pierres, etc. Bon. Et donc, elle est, malgré tout, elle est, c'est certain, au premier rang, hein, suffisamment au premier rang pour être blessée, et même vraiment à plusieurs reprises. Hein. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Donc, elle suscite l'enthousiasme, elle a conscience de sa mission, et plus qu'une conscience de sa mission, elle est convaincue de sa mission, et elle réussit à rallier autour d'elle ces troupes de Charles VII qui, quand même, avaient assez piètre allure. Hein. C'est-à-dire que c'était quand même des bandes hein, qui n'obéissaient qu'assez lointainement à Charles VII hein, et qui n'étaient pas vraiment, qui n'étaient pas très disciplinées. Hein. L'armée anglaise était quand même plus disciplinée, semble-t-il. En tout cas, elle réussit à imposer, non sans difficulté, une forme d'autorité. Encore une fois, du point de vue strictement militaire, cette forme d'autorité ne va pas très loin. Puisqu'après avoir libéré Orléans, on peut lui donner ce crédit, après avoir libéré les places de la Loire, hein, donc Main-sur-Loire, Beaugency, etc., elle va quand même pousser Charles VII de nouveau à aller vers Reims, hein, recevoir son sacre, on va y revenir bien sûr, mais malgré tout, le 18 juin 1429, c'est la grande opération militaire, c'est la bataille de Patay, qui est à peine une bataille rangée, en fait, puisque les Anglais ont été surpris dans leur retraite par l'armée française. La bataille de Patay, donc entre Orléans et Paris, alors que les Anglais sont en train de battre en retraite, ils sont surpris et obligés de combattre, mais sans avoir vraiment pu s'organiser. Jeanne d'Arc trépigne parce qu'elle est placée à l'arrière-garde. Hein. Donc, c'est-à-dire que du point de vue strictement tactique, elle n'est pas chef de guerre au sens où elle ne conduit pas directement les opérations militaires. C'est plutôt un rôle d'aiguillon qu'elle joue en allant toujours vers l'offensive. Elle est blessée donc à Orléans, elle se bat à Patay. Mais est-ce qu'elle se bat vraiment, hein? Est-ce qu'elle est vraiment dans la mêlée? Il y a un beau tableau, hein, je ne sais plus l'auteur, mais au musée d'Orsay, hein, on voit Jeanne d'Arc à la bataille de Patay. Mais enfin, voilà, elle a son étendard et c'est toujours comme ça qu'on la présente, hein, avec son étendard. Mais elle ne combat pas au milieu, au cœur finalement des combats. Elle n'a pas d'expérience finalement. Des combats. Elle est blessée devant Paris, bon, elle mène quelques opérations secondaires contre la Charité au cours de l'hiver 1429-1430, Saint-Pierre-le-Moutier, et puis finalement elle est remisée, hein, elle est rangée, écartée, et finalement elle s'évade en quelque sorte de sa prison dorée que lui avait donnée Charles VII pour reprendre, si on veut, les combats, ou en tout cas une activité d'ordre militaire, et c'est alors qu'elle s'enferme dans la place de Compiègne, qui avait été reprise par les armées de Charles VII au cours de l'été 1429 et qui était assiégée par une armée anglo-bourguignonne. Le siège de Compiègne est intéressant puisque c'est la seule opération où on est sûr que Jeanne d'Arc a combattu. On est sûr que Jeanne d'Arc a combattu puisque c'est là où elle a été faite prisonnière. Donc c'est quand même paradoxal, c'est-à-dire que c'est la seule fois où on sait que Jeanne d'Arc a combattu, mais elle a été faite prisonnière. Donc ça n'augure pas très bien quand même de ces capacité militaire à strictement parler. Ce qui est certain en tout cas, c'est que d'une part son rôle a été très important puisque en menant Charles VII à son sacre, elle a vraiment tranché la question de la légitimité qui avait été ouverte en 1420 au traité de Troyes. C'est-à-dire qu'à partir de 17 juillet 1429, sacre de Charles VII à Reims, hein, par l'archevêque de Reims, René de Chartres, il est certain pour tout le monde, y compris pour les partisans français du roi d'Angleterre Henri VI, il est certain que le vrai roi de France, c'est Charles VII. Hein, donc, du point de vue de la légitimité, le rôle de Jeanne d'Arc, parfois contesté, est absolument hors de doute. Hein, c'est-à-dire que c'est certain que Jeanne d'Arc a changé le cours de la guerre de Cent Ans. Hein. Après tout, Charles VII lui-même n'était pas très partisan d'aller jusqu'à Reims, hein, qui est en plein territoire anglo-bourguignon. Et c'est Jeanne d'Arc qui l'y a poussé parce qu'elle avait compris, en femme du peuple, mais enfin elle avait compris que la légitimité ne pouvait se trancher que par le recours au sacre et donc à la vieille tradition qui était celle des Capétiens et des Carolingiens avant même celle des Valois. Donc Jeanne d'Arc, finalement, sa carrière militaire en tant que chef de guerre, vous voyez, elle est contrastée. C'est-à-dire qu'elle a eu un rôle idéologique, elle a eu un rôle politique, elle a eu un rôle militaire, puisque c'est elle qui a poussé à lever le siège d'Orléans, hein, au théologien qui l'interroge à Poitiers, qui lui demande un signe pour montrer qu'elle a bien été envoyée pour sauver en quelque sorte Charles VII. Elle leur dit « Menez-moi devant Orléans et je vous donnerai le signe ». Et effectivement, le signe, en quelque sorte, a été donné à cette occasion-là. Donc une force de conviction, mais chef de guerre, probablement, il faut un petit peu en rabattre, puisque de fait, Jeanne d'Arc n'a pas été tellement combattante. Et la seule fois où elle a combattu, où on est sûr qu'elle a combattu, elle a été faite prisonnière. Ce qui est certain, par ailleurs, c'est que la propagande autour de Charles VII, et j'utilise le mot de propagande vraiment sans honte, parce que c'est vraiment de cet ordre-là, c'est plus que de la communication, c'est vraiment, on a mis en scène, du côté de Charles VII, on a mis en scène Jeanne d'Arc, et on retrouve un nombre certain même pour l'époque, de lettres qui ont été adressées aux villes du royaume, qui sont présentées comme des bulletins de guerre par Charles VII, et qui mettent bien en évidence le rôle de Jeanne d'Arc. Après tout, ce n'était pas évident, et tout ça avait été préparé par une intense campagne de propagande, là aussi, avant même que Jeanne d'Arc ait été mise à la guerre, qu'a été mise dans la... vraiment armée, etc. On a envoyé dans les villes du royaume, là aussi, des dossiers qui comprenaient une description physique de Jeanne, d'où elle venait, comment elle avait rencontré Charles VII, qu'elle avait reconnu Charles VII parmi des gens parmi lesquels le roi se cachait. Enfin, donc, il y a toute une série de choses qui sont mises en évidence. Également des prophéties qui annoncent la venue de Jeanne d'Arc. Et donc, il y a vraiment tout un dossier qui avait été envoyé aux villes du royaume et qui annonçait. Donc, c'était quand même un pari extraordinaire de la part du gouvernement royal. Face à cette propagande de Charles VII, il y avait évidemment une contre-propagande du côté anglais ou du côté anglo-français, puisque beaucoup de Français d'Île-de-France, de Normandie particulièrement, étaient attachés au régime né du traité de Troyes et à Henri VI et au duc de Bedford, qui était le régent du royaume de France au nom du roi d'Angleterre. Et donc, il y a toute une propagande qui, là, en revanche, met tout de suite l'accent sur le fait que la Jeanne d'Arc est une sorcière, est une hérétique, c'est par ses charmes, etc., qu'elle a pu remporter la victoire contre les vaillants soldats anglais. L'Université de Paris, d'ailleurs, dès le moment du siège d'Orléans, donc très tôt, l'Université de Paris réclame Jeanne d'Arc, si elle venait à être faite prisonnière, demande à ce que ce soit l'université, autorité, où la faculté de théologie était très importante à l'Université de Paris, et l'Université de Paris réclame d'avoir en jugement Jeanne d'Arc, l'université étant une corporation d'église, une corporation ecclésiastique. On arrive au moment du procès. Alors le procès, je l'ai dit tout à l'heure, le procès de Jeanne d'Arc, c'est un procès qui est mené par des autorités ecclésiastiques. C'est-à-dire que on parle aujourd'hui souvent, pour le procès de Jeanne d'Arc, de procès politique. Alors à l'évidence, c'est un procès politique au sens où voilà, la condamnation était connue d'avance. Même les Anglais, avant de confier Jeanne d'Arc au juge ecclésiastique, donc à Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais, qui avait obtenu de la juger, parce que le diocèse de Beauvais était celui dans lequel Jeanne d'Arc s'était distinguée. Donc l'évêque Pierre Cochon a obtenu Jeanne d'Arc, mais les Anglais ont mis pour condition que si Jeanne d'Arc n'était pas condamnée, ils la récupéraient. Donc là, il n'y a pas de doute que c'est un jugement, un procès politique. Mais enfin, parler de procès politique, ça obscurcit en un sens un petit peu les choses, dans la mesure où Jeanne d'Arc est vraiment jugée par un tribunal ecclésiastique. Il y a donc les deux juges, Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais, qui est le président du tribunal, et certainement le juge principal, et qui est flanqué d'un dominicain, donc représentant de l'Inquisition. L'inquisiteur de France n'a pas voulu s'en mêler, on ne sait pas exactement pourquoi, il avait autre chose à faire. Et donc c'est un vicaire de l'inquisiteur, mais un dominicain quand même, qui va être assez discret d'ailleurs pendant le procès, mais qui flanque Pierre Cochon pour le procès lui-même. Et puis ils sont entourés, c'est bien connu, par des assesseurs, hein, donc par des conseillers, presque tous des Français, hein, il y a très peu d'Anglais, mais enfin, les Anglais sont là quand même, mais il y a quelques, c'est surtout des Français, surtout des maîtres de l'Université de Paris, soit des théologiens, soit des juristes. Hein, donc c'est ce tribunal qui va en quelque sorte juger Jeanne d'Arc. Alors évidemment, ce que nous avons en tête à propos du procès de Jeanne d'Arc, c'est bien sûr ces scènes qu'on a vues très souvent dans les films ou dans les livres, hein, c'est-à-dire Jeanne d'Arc répondant du tac au tac à ses juges, et seule devant ses juges, ses hommes, qui sont des ecclésiastiques, qui sont beaucoup plus âgés qu'elle, qui sont des savants, qui sont des lettrés, qui sont parfois assez nombreux, hein, plusieurs dizaines éventuellement, et elle qui répond du tac au tac. Alors de fait, il faut admirer la capacité de Jeanne d'Arc à répondre comme ça aux juges, hein, et vraiment souvent les tourner en ridicule d'ailleurs. Et ça, nous le savons parce que, pour le coup, les réponses de Jeanne d'Arc ont été consignées. Ce n'est pas une sténographie, mais enfin, c'est quand même assez proche, visiblement, de ce que Jeanne d'Arc a pu dire. Et donc, on sait qu'elle pouvait les remettre en place. Hein. Elle était parfois mise en difficulté, mais elle savait les mettre en place. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu une dizaine de séances publiques au cours d'un procès qui a duré quand même 5 mois, qui s'est allé 5 mois. Et je crois qu'il y a 12 séances d'interrogatoire en tout, hein, donc 6 qui sont publiques et 6 qui sont dans la prison. Et donc l'image que nous avons, traditionnelle, du procès de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc seule devant ses juges, un peu à l'américaine presque, enfin sans avocat, mais enfin, un peu quand même un procès comme ça, un peu spectaculaire, ça ne donne qu'une image. Hein, et Jeanne d'Arc a par ailleurs été vraiment a subi toute une série de privations, et d'abord la privation des sacrements, hein, pour elle qui était si pieuse, trop pieuse d'ailleurs, hein, parce qu'elle communiait trop souvent selon les normes du temps pour des laïcs, elle qui était si pieuse a été privée des sacrements. Hein, donc il y a quand même une forme de presque de torture ici morale, hein, qui lui est infligée. Il y a la question du viol, hein, qui n'est pas entièrement résolue, qu'on ne peut pas résoudre d'ailleurs, mais enfin qui n'est pas absolument impossible. En tout cas, elle l'a craint, elle l'a redouté. Et puis donc tout ça pour vous dire qu'elle est quand même prisonnière de guerre, mais en même temps, elle n'est pas prisonnière de guerre, parce que quand elle est faite prisonnière à Compiègne, son frère, Jean d'Arc, est fait prisonnier avec elle. Or, Jean d'Arc est libéré très peu de temps après contre rançon. Et c'est ça, le sort d'un prisonnier de guerre au XVe siècle, c'est d'être libéré contre rançon. Et jamais les Anglais, évidemment, n'auraient libéré Jeanne d'Arc contre rançon. Mais même le duc d'Orléans, qui est le poète, hein, qui est fait prisonnier à Azincourt en 1415, il va passer 25 ans en prison, hein, jusqu'en 1440, mais il sera quand même libéré, et il sera libéré contre rançon. Ça, c'est un prisonnier de guerre. Mais, en revanche, je reviens à cette idée que c'est bien un procès ecclésiastique, un procès d'ordre religieux qui est mené contre Jeanne d'Arc. Au contraire, Jeanne d'Arc n'est jamais considérée comme une véritable prisonnière de guerre, mais toujours considérée, évidemment, comme une hérétique potentielle qu'il faut poursuivre, non pas pour des motifs politiques, mais pour des motifs vraiment religieux. De fait, quand on regarde attentivement les minutes du procès ou les réponses que fait Jeanne d'Arc du côté du procès, enfin dans son procès, aux questions qui lui sont posées, et là on a quand même témoignage à la fois des intentions des juges et des intentions de Jeanne, les intentions des juges sont de la coincer, si vous me passez l'expression, sur deux choses. D'abord sur l'habit d'homme, le fait qu'elle portait un habit d'homme contre les interdictions qui sont dans la Bible, etc. Bon, quelque chose qui était quand même très fort à l'époque, hein, qui n'était pas du tout, qui passait pas inaperçu, même du côté de Charles VII, ça gênait un petit peu les gens. Donc cette question d'habit d'homme, qui, comme vous le savez, va la conduire au bûcher, puisque c'est à partir du moment où elle refuse elle remet ses habits d'homme qu'on la destine au bûcher. Et puis, évidemment, également la question des voix. Hein, la question des voix. Mais sur cette question des voix, il faut juste préciser quelque chose, c'est que pour les juges de Jeanne d'Arc, la question des voix était évidemment insoluble, comme pour nous. Ils étaient libres de penser, au fond, que c'était des démons. Ils ont essayé de s'en convaincre. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que pour nous, ça résume presque la question de Jeanne d'Arc. Hein. Combien de tableaux nous présente Jeanne d'Arc à Don Rémy, les yeux au ciel et écoutant ses voix ou entendant ses voix qu'on ne peut pas trop représenter. Mais jusqu'au procès de Jeanne d'Arc, il n'est jamais ou pratiquement jamais question des voix. Et c'est vraiment notre seule source sur les voix de Jeanne d'Arc vient du procès. Et dans le procès d'annulation de 1456, aucun des témoins n'a parlé des voix. Le confesseur de Jeanne d'Arc était encore vivant, n'a pas été interrogé. Son témoignage aurait pourtant été précieux. Il était vivant et disponible, mais il n'a pas été interrogé. Et donc, la question des voix gênait du côté de Charles VII, qui n'en fait pas état dans les dossiers de propagande qu'il envoie au printemps 1429. Au mieux, on dit qu'elle a été inspirée, elle a été envoyée. Mais enfin, le fait que ce soit Sainte Catherine et Sainte Marguerite, que ce soit l'archange Saint-Michel, tout ça nous vient du procès. Et Jeanne d'Arc même, il y a des études assez poussées qui ont été faites là-dessus, Jeanne d'Arc même détaille progressivement. Et on voit qu'elle elle-même finalement construit un discours sur les voix, quelque chose sur quoi elle n'était pas, sur quoi elle n'avait pas beaucoup communiqué jusqu'ici. Et de fait, encore une fois, dans la propagande de Charles VII, ça n'intervient jamais. Au mieux, encore une fois, on dit qu'elle était inspirée. Mais c'est vraiment au cours du procès que Jeanne d'Arc, sous les questions insistantes et quand même assez gênées des juges, qui sont quand même sont vraiment surpris de voir cette jeune fille, qui par ailleurs est extrêmement intelligente, invoquer ses voix. Et il y a quand même ce mystère des voix reste vraiment complet. Tout ça pour dire qu'ils vont essayer l'attraper en quelque sorte sur l'abidum, qui va fournir le motif juridique en quelque sorte pour l'envoyer au bûcher. Et puis, ils vont beaucoup s'interroger sur, l'interroger, elle, sur la question des voix, qui va vraiment beaucoup les surprendre. Mais il y a un domaine sur lequel elle veut insister et qui n'intéresse pas du tout les juges, c'est la légitimité de sa mission et notamment la guerre qu'elle a menée. Mais il faut bien se remettre dans la position de l'évêque Cochon et des autres juges de Jeanne d'Arc, c'est qu'eux ne veulent pas du tout entrer dans cette dimension politique, c'est-à-dire la légitimité respective de Charles VII et de Henri VI. Ils ne veulent pas du tout considérer Jeanne d'Arc comme une chef de guerre ou comme une femme de guerre, mais ils veulent simplement la considérer comme une sorcière potentielle ou en tout cas une jeune fille que ces graves docteurs, clercs, etc., doivent ramener dans droit chemin. Et on voit bien, par exemple, quand elle parle pour la première fois des voix, donc c'est au style indirect, évidemment, elle a dit qu'elle lui enseigna à bien se conduire, donc c'est la voix qui parle, elle a dit qu'elle, la voix, lui enseigna à bien se conduire, à fréquenter l'Église. Elle a dit aussi que cette voix lui disait qu'elle vienne en France, donc auprès de Charles VII, et qu'elle ne pouvait plus durer où elle était, à Domrémy, et que cette voix lui disait qu'elle ferait lever le siège mis devant Orléans. Elle a dit ensuite que la voix lui avait dit qu'elle-même, Jeanne, alla dans la ville forte de Vaucouleurs, trouver Robert de Baudricourt, capitaine de ce lieu, et qu'il lui donnerait des gens qui iraient avec elle. Jeanne répondit alors qu'elle était une pauvre fille qui ne savait monter à cheval ni conduire la guerre. Ça, c'est le premier témoignage. On est alors, quand elle parle de ça, c'est dans les années 1425, qu'elle se replace dans les années 1425-1426. Mais malgré tout, elle dit, je ne sais pas, je suis une pauvre jeune fille, paysanne, je ne sais pas conduire la guerre, mais les voix l'ont convaincue, et tout au fil de son procès, ce serait trop long de donner tous les exemples, mais tout au fil de son procès, elle va toujours ramener la question à celle de la guerre, de la légitimité de la guerre, du fait qu'elle défendait le roi de France légitime et que pour ça, elle faisait la guerre. Donc à la question posée, mythe ou réalité, pour elle, elle était convaincue qu'elle avait été chef de guerre et que c'était la légitimité de sa mission. Un exemple frappant, quand elle parle d'une Catherine de La Rochelle, qui est une de ces femmes qui, un peu à l'image de Jeanne d'Arc, ont essayé d'avoir un rôle politique et un peu prophétique. Et Jeanne était très jalouse et exclusive. Ouais, c'était elle la seule. Et donc elle n'aime pas beaucoup cette Catherine de La Rochelle. Item, la même Jeanne a dit à Catherine de La Rochelle qu'il voulait aller vers le duc de Bourgogne pour faire la paix, qui lui semblait, à elle, Jeanne, qu'on ne trouverait point de paix sinon par le bout de la lance. Donc il y a toujours cette idée que voilà, c'est la guerre qui est la légitimité de sa mission. De même, quand on l'interroge sur le siège de Paris, l'attaque contre Paris a été lancée le 8 septembre, c'est-à-dire la nativité de Notre-Dame, fête religieuse, fête importante, elle dit pourtant voilà, c'est une action légitime et les gentilshommes de France ont fait leur devoir en combattant ce jour-là pour avoir pour regagner la capitale. Et à chaque fois que Jeanne invoque la guerre, son action militaire, le fait qu'elle elle-même se dit chef de guerre, ses interrogateurs changent bientôt, immédiatement même, de sujet. Hein. Il interroge, au contraire, il la ramène sur les voies, sur l'habit d'homme, sur des choses qui finalement finissent par nier le rôle militaire que s'attribue au contraire Jeanne. Alors Jeanne n'est quand même pas sotte, hein, et donc elle a bien compris où on veut la mener, où on la mènera, et donc elle est un peu ambiguë sur son rôle strictement de combattante, hein, qui est encore autre chose finalement que son rôle de chef de guerre. Et à un moment, on lui demande si elle préfère son étendard. Son étendard, parce qu'il y avait la Vierge d'un côté, puis il y avait Dieu et le monde de l'autre côté. C'est un étendard qui a un peu étonné les juges de Jeanne d'Arc. Hein, et on lui demande, interrogée sur ce qu'elle préférait, ou son étendard ou l'épée, elle répondit qu'elle préférait de beaucoup, 40 fois, l'étendard à l'épée. Hein. Donc, c'est une manière assez habile quand même de se sortir de cette difficulté, en se présentant moins en combattante finalement qu'en porte-étendard, hein, avec un étendard qui était très spécifique, hein, qu'elle avait fait faire, hein, sur ses instructions, et donc qui était vraiment quelque chose qui lui était propre. Ce n'était pas l'oriflamme, ce n'était pas les fleurs de lys, hein, c'était tout à fait autre chose. Et elle préfère quand même son étendard à son épée. Hein. Donc le procès ne fournit pas finalement de réponse à cette question, est-ce qu'elle a combattu vraiment ? Et en définitive, je reviens une dernière fois là-dessus, on la condamne pour le port de l'habit d'homme, on la condamne pour hérésie, sorcellerie, etc., pour toute une série de crimes, mais dans lesquels le fait d'être une chef de guerre n'intervient pas du tout. Hein, encore une fois, parce que ça contredisait à la logique politique qui était celle du procès, et fait que, on ne pouvait pas la mettre sur le plan, enfin sur le terrain du procès, on ne pouvait pas évoquer les questions politiques de légitimité. Puisque, encore une fois, Jeanne d'Arc, en faisant sacrer Charles VII, avait tranché cette question de légitimité, hein, y compris pour les juges. Hein, ils savaient bien qui était le roi de France légitime. Il n'y a pas tellement de doute là-dessus. En tout cas, il est certain qu'on l'a condamnée pour le port de l'habit d'homme. Hein, dans un premier temps, donc le jeudi, à la fin du mois de mai, elle, devant le bûcher qui est déjà allumé, hein, qui est prêt à la recevoir, elle dit que voilà, elle renonce à tout, à ses voix, etc., tout ce qu'on lui a dit. Elle dit que elle abdique, en quelque sorte. Et puis, au cours de la fin de semaine, elle réfléchit, elle va invoquer après ses voix. Et en tout cas, le lundi, quand les gardiens se présentent, elle a revêtu son habit d'homme de nouveau, hein, donc en abandonnant l'habit de femme. Ce qui pose des questions, parce que comment elle avait un habit d'homme à disposition, ben, elle n'avait pas un dressing non plus à côté, hein, donc elle avait son habit de femme. Alors, pourquoi lui a mis, hein, on lui a mis peut-être chaque matin, on lui mettait un habit d'homme, un habit de femme pour tester en quelque sorte sa volonté. Et en tout cas, il est certain que le lundi, donc ça va être le 28 mai, elle est vue en habit d'homme. Et donc aussitôt, le tribunal se réunit de nouveau et la condamne comme relapse et l'envoie au bûcher. Mais vous voyez que finalement, cette question pourtant qui nous paraît centrale, hein, de politique, hein, de chef de guerre et même de combattante, est tout à fait secondaire dans le procès. Hein. Ce qui a compté, c'était de trouver un moyen de la condamner, ça va être l'habit d'homme, et puis essayer de creuser cette question des voix, qui était un peu embarrassante, parce que malgré tout, on admettait la possibilité des voix, c'était très rare, mais enfin, on admettait, y compris du côté de Henri VI, du côté de Cochon et des inquisiteurs, on reconnaissait la possibilité des voix, même si c'était très rare. Et donc ça les a quand même un petit peu, perturbés. Mais vous voyez que cette question militaire, politico-militaire, en quelque sorte, est passé au second plan, au grand désespoir de Jeanne d'Arc, qui n'a de cesse, au fil de ses interrogatoires, de remettre cela au premier plan, hein, et de toujours mettre le fait que, sa mission avait vraiment une dimension strictement militaire.